Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série L'ascension du vainqueur et son triomphe. Le titre de notre étude ce matin, étude numéro 29, c'est le royaume messianique et sa réalité historique. La domination royale de Dieu, c'est le but de l'histoire du salut. Dieu tout en tous. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. C'est donc là le vrai thème de base de la Sainte Bible. Tous les chrétiens des premiers temps avaient en commun une même foi en un royaume visible, doctrine appelée chiliasme, et partagée par exemple par Papias, Justin, Tertullien, Irénée et Hippolyte. Mais cette conviction généralement admise dans les trois premiers siècles se perdit avec l'extension du catholicisme Clément, Origène, Augustin, pour n'être remis en valeur que ces derniers siècles. Or, cette vérité biblique ne peut être voilée qu'à la faveur d'une triple erreur fondamentale d'interprétation. C'est un mélange d'Israël et d'Église. C'est une confusion du passé avec le futur, spiritualisation unilatérale des prophéties du royaume dans l'Ancien Testament. Par contre, l'espérance chrétienne originale d'un royaume terrestre visible et rempli de la gloire du Messie se fonde sur un roc inébranlable. C'est en effet la seule interprétation logique des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. C'est la seule vraie démonstration de la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est la seule explication du temps de la fin qui soit pleinement conforme à tous les textes prophétiques du Seigneur et de ses apôtres. C'est l'ultime démonstration de la condition désespérée de l'homme et de la justice de Dieu. Donc, premièrement, nous avons le royaume terrestre qui est la seule interprétation logique des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Les promesses qui concernaient la première venue du Christ se sont accomplies littéralement. Souvent, elles sont associées à celles non encore accomplies de sa seconde venue. Comment alors justifierait-on pour ces dernières une interprétation spirituelle? Exemple, Saint Luc chapitre 1, verset 31 à 33. C'est littéralement que le Messie est né à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 1. C'est donc littéralement qu'il entra à Jérusalem, monté sur un âne. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie, chapitre 11, verset 12. Il eut les mains et les pieds et le côté percé à la croix et l'a vérifié. Psaume chapitre 22, verset 17, et Zacharie, chapitre 12, verset 10. C'est donc littéralement qu'il est mort et qu'il fut enterré. Ésaïe, chapitre 53, versets 8 et 9, et le verset 12. J'ai dit Ésaïe 53. Et c'est bien entendu littéralement qu'il ressuscita le troisième jour. Ce n'est pas de la spiritualité. Psaume, chapitre 16, verset 10, et Osée, chapitre 6, verset 2. Réduire en simple métaphore les prédictions de sa venue en gloire, ça serait combien absurde et contradictoire. Le Seigneur serait-il mort en croix métaphoriquement? Aurait-il bu un vinaigre spirituel? Psaume 69, verset 22. Tira-t-on au sort ses vêtements spirituellement? Psaume 22, verset 19. Dieu n'a-t-il dispersé son peuple parmi les nations que d'une manière figurative? Deutéronome 4, verset 27. Est-ce métaphoriquement qu'ils sont aujourd'hui privés de roi, de prince, de sacrifice, d'autel, d'épodes et de sanctuaire? Osée chapitre 3, verset 4. Non, 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 tout cela arriva réellement, littéralement. Tant de prophéties affirment que Dieu fera sortir son peuple d'Israël hors des nations pour l'amener à nouveau dans la terre de ses pères. Par exemple, notez Jérémie, chapitre 16, versets 14 et 15, Ésaïe, chapitre 27, versets 12 et 13, et Ézéchiel, chapitre 11, verset 17, et chapitre 28, verset 25. Comment supposer que tout ceci soit simplement une manière figurative de parler? En vertu de quoi lirions-nous, nous les chrétiens, Église ou ciel, lorsque les textes disent « Juif, Jérusalem ou Canaan » Le trône de David fut-il un jour dans les cieux? Saint Luc chapitre 1 verset 32. Cette terre, la terre de Galade et le Liban où le Seigneur replantera son peuple. Jérémie 32 verset 41. Zacharie chapitre 10 verset 10 et Amos chapitre 9 verset 14 et 15 furent-ils jamais ailleurs qu'ici-bas et dans le Proche-Orient? Il est donc certain que les prophètes emploient un grand nombre de métaphores poétiques et que le royaume millénial est le type et la préfiguration de l'état éternel, de même que dans l'Église, Dieu donne un accomplissement spirituel des promesses du royaume. Gardons-nous donc de rejeter toute spiritualisation. Mais la spiritualisation acceptée seule est une dangereuse manière de contourner le sens le plus direct de l'Écriture sainte. Elle est illogique et arbitraire. Elle fait Dieu menteur à l'égard de ses promesses. Les Juifs, en outre, sont déjà rentrés en Israël en grand nombre. C'est là une partie du programme biblique pour leur avenir. Deuxièmement, le royaume est la seule véritable démonstration de la fidélité de Dieu à ses promesse. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains chapitre 11, verset 29. Aux croyants de la postérité naturelle d'Abraham, Dieu a fait la promesse d'un pays. Genèse chapitre 15, versets 4 et 7, et ajouter le verset 18. Cette prophétie, commençant avec Abraham et non avec Moïse, c'est donc quelque chose qui est fondé non sur la loi, mais sur la promesse. Romains chapitre 4, versets 13 à 15. Et c'est pourquoi elle ne peut être annulée par la faute d'Israël et demeure inchangée à cause de l'honneur même de Dieu. Ézéchiel 36, versets 22 et 23. Et à cause de sa vérité. Romains 15, verset 8. Et à cause d'Abraham, son véritable ami. Genèse chapitre 26, versets 2 à 5. Et Lévitique chapitre 26, verset 42. Parce que elle est certaine et solide, elle est comparée à l'ordre naturel et à la stabilité des montagnes. Ésaïe 54, verset 10. Au cours des jours et des nuits, Jérémie 33, verset 20 et 21, et le verset 25 et 26. Et comparé à l'ordonnance du soleil, de la lune et des étoiles. Jérémie 31, verset 35 à 37, et Psaume 89, verset 36 et 38. Et, en plus, à l'univers renouvelé. Ésaïe 66, verset 22. Ainsi nous dit l'Éternel, qui donne le soleil pour lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit. Si jamais ces ordonnances s'en vont de devant moi, dit l'Éternel, la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Jérémie 31, verset 35 et 36. Ces prophéties étaient données pour être comprises littéralement. Les spiritualiser ou les attribuer à un quelconque autre destinataire serait de la part de Dieu une rupture camouflée de l'alliance de la promesse. Mais cela ne saurait être et ne sera jamais. Troisièmement, le royaume terrestre est la seule interprétation conforme au texte prophétique du Seigneur et de ses apôtres. Tout d'abord, il y a Jésus-Christ jugeant les pharisiens et Jérusalem. Il a jugé les deux. Si mal dirigé par eux, Jésus-Christ s'était crié et il a dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Saint Matthieu, chapitre 23, versets 37 à 39. Par là, le Seigneur montre que la maison d'Israël ne sera pas toujours déserte et sous le jugement, mais que le temps viendra où, reconnaissant son Messie, Israël le recevra avec des chants de joie et des acclamations de bonheur. Enfin, converti, c'est comme Messie et comme roi divin qu'il le salueront. Certes, le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde quant à son origine et à sa nature, Saint Jean 18, verset 36, mais il est certainement pour ce monde. Le Seigneur disait encore, « Vous qui m'avez suivi dans la régénération, c'est-à-dire au temps de la renaissance de cette création terrestre, dans le royaume visible, et cela quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, eh bien vous aussi serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. » Saint Matthieu, chapitre 19, verset 28. Et lorsque, après la résurrection, les disciples lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Actes chapitre 1, verset 6. Jésus ne les rebute pas à cause de leur conception charnelle du royaume, pas plus qu'il ne donne un démenti général de la venue du royaume au sens visible qu'il y donnait. Il se contente simplement de leur dire, voyons, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Actes chapitre 1, verset 7. Cette expression prophétique « temps » ou « moment » montre que le royaume de Dieu sera effectivement établi un jour. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 11 et verset 29 du chapitre 26. Pour mieux comprendre, je répète donc que c'est Saint Matthieu, chapitre 8, verset 11 et le chapitre 26, verset 29. Ensuite, il y a l'apôtre Jean. L'Apocalypse, incontestablement, rend témoignage à la venue de ce royaume glorieux. C'est le seul livre de la Sainte Bible citant expressément les 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 2 à 7. Le fait qu'il place cette tranche de l'histoire, après le récit de l'apparition du Christ et de sa victoire sur l'Antichrist, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, indique clairement qu'il faut compter ces 1000 ans, et cela à partir du retour de Christ, et qu'ils s'étendront entre la première résurrection et le grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et nous avons notre ami l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre dit, parlant de l'incrédulité d'Israël pendant le temps de son aveuglement, jusqu'à ce jour, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur, mais quand il, Israël, se tournera vers le Seigneur, alors là, le voile sera ôté. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16, et Exode, chapitre 34, verset 34. Un temps viendra donc où Israël se tournera vers Christ, où le voile sera ôté et où ils atteindront la véritable liberté. Saint Paul attendait un salut futur pour Israël. Pourquoi Saint Paul avait la promesse concernant Israël que le Christ se révélerait lui-même à eux. L'heure viendra donc certainement où Israël cessera d'honorer la loi sans la comprendre, mais où il en saisira la signification et le but. Alors, il se tournera vers Jésus-Christ. De même que Moïse ôtait le voile chaque fois qu'il se tournait vers Dieu, Exode 34, verset 34, ainsi le voile sera ôté quand le peuple de Dieu converti à Jésus-Christ se tournera vers le Seigneur. Alors il comprendra que la gloire de Moïse n'est pas comparable à celle du Fils unique du Père venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Saint Jean, chapitre 1, versets 14 à 17. Telle était l'espérance vivante de l'apôtre. Romains 10, verset 1 et chapitre 11, versets 25 et 26. Le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15, est lui aussi très important. Saint Paul, parlant de la résurrection corporelle des morts, distingue plusieurs étapes dans le temps. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24. Christ, les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ à sa venue, la parousie. Ensuite, la fin, d'après le contexte, cette fin est celle des résurrections quand il donnera le royaume à Dieu, son Père. Le royaume qui sera remis par le Christ au Père se trouve donc pour saint Paul aussi entre la résurrection des croyants et la résurrection générale à la fin, résurrection qui, d'après Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13, coïncide avec le grand trône blanc et la destruction de l'ancienne terre. Mais une autre question doit être considérée ici. Saint Paul proclamait un évangile libre à l'égard de la loi, où devait disparaître toute distinction entre juifs et les non-juifs. Romains chapitre 3, verset 9 et versets 22 et 23, ainsi que le chapitre 10, toujours de Romains, chapitre 10, verset 12, et Galates, chapitre 3, verset 29. Donc, chaque Israélite prenant l'Écriture sainte au mot, ne doit-il pas penser que le choix et la position d'Israël, inchangés pendant plus de 2000 ans, dément ce message? Psaume 147, versets 19 et 20, Amos, chapitre 3, verset 2, et Exode, chapitre 19, verset 5. Il semble placé devant cette alternative où Dieu a failli à ses promesses envers Israël, ce qui ne peut être le cas, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, ou bien Jésus de Nazareth, que proclamait l'apôtre Paul, ne peut que être le Messie promis. À cela, saint Paul répond, Dieu agit comme il veut, Romains chapitre 9. Sur le théâtre de l'histoire du monde, ils se retrouvent les uns et les autres souverainement. Non qu'ils contraignent le croyant à croire et l'incroyant à demeurer incrédule, mais parce qu'il choisit certains individus parmi les incrédules pour servir à démontrer sa puissance de jugement comme Pharaon d'Égypte, Romains chapitre 9, versets 14 à 18, et d'autres parmi les croyants pour être agents spéciaux de son salut, comme Abraham, Isaac et Jacob, versets 6 à 13 de Romains chapitre 9. Ainsi, Romains chapitre 9 ne concerne pas l'appel au salut, mais certains buts en relation avec l'histoire du salut. C'est la fonction de l'homme plus que son individualité qui est ici considérée. Le choix d'Israël demeure donc entièrement le fait de la liberté de Dieu qui aurait pu choisir tout aussi bien Melchisédek, le prêtre du Très-Haut, que Abraham, Genèse 14, verset 18. L'homme, pas plus le juif que le non-juif, n'a aucunement le droit d'exiger quoi que ce soit de Dieu. Même lorsqu'il ne comprend pas les affaires de Dieu, c'est à lui, évidemment, c'est à lui de se taire et de reconnaître sa souveraineté pareille à celle du potier sur l'argile, versets 19 à 25. Pourtant, Dieu agit toujours avec justice, Romains chapitre 10. Il n'use pas arbitrairement de sa liberté. Il a de bonnes raisons de traiter Israël comme il le fait. Israël, en effet, a voulu être justifié par la loi, Romains 9, verset 30 et chapitre 10, verset 3. Dieu a désigné, ordonné et rendu possible la justification par la foi, Romains chapitre 10, verset 4 à 13. Il l'a proclamé, chapitre 10, verset 14 à 18. Mais Israël, en la refusant, s'est rendu coupable des désobéissances, méritant ainsi la punition, chapitre 10, verset 19 à 21. Oui, Dieu agit toujours en vue de la bénédiction, Romains chapitre 11. Le jugement de Dieu n'est pas le rejet de son peuple, mais c'est sa mise de côté pour un temps. Romains 11, verset 1. Israël dispersé garde son espérance, Lévitique chapitre 26, versets 44 et 45, et Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. De plus, la manière divine de procéder envers Israël a pour résultat la bénédiction de tous. Oui, de bénir le résidu qui croit en Jésus-Christ. J'espère qu'on a bien compris. La manière divine de procéder envers Israël a pour résultat la bénédiction de tous, de bénir le résidu qui croit en Jésus-Christ, car il atteint le pardon, selon Romains chapitre 11, versets 1 à 10. De bénir également le monde dans son ensemble, car il reçoit l'Évangile, versets 11 à 15. De bénir Israël quand il sera renouvelé, car il sera accueilli à nouveau, versets 16 à 32, toujours de Romains chapitre 11. L'endurcissement d'Israël est partiel et seulement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée, Romains chapitre 11 verset 25. Et tout Israël sera sauvé, Romains 11 verset 26. Telle est donc la solution du conflit qui semble opposer le choix d'Israël et l'appel de l'Église. c'est dans l'avenir que le passé se réconcilie avec le présent. Suivant que l'on accepte ou refuse ces propositions, toute la théologie de l'apôtre tient debout ou elle s'écroule. Nier ces prophéties concernant Israël, c'est tout simplement nier la base même de l'Église, c'est nier ou la fidélité de Dieu à son alliance ou la liberté de l'Évangile à l'égard de la loi, c'est-à-dire ou nier Yahvé ou l'apôtre Paul. On le voit, la question du royaume millénial ne concerne pas seulement l'histoire de la fin, elle est liée aux doctrines centrales de l'Évangile. Dans un langage sans équivoque, l'apôtre a dit sa foi en une pleine conversion d'Israël. Romains chapitre 11, versets 11 et 12, et le verset 15. Conversion dont les effets bénis auront la plus large résonance pour toute l'humanité. Par là, il montre la signification de cet événement qui se rattache au-delà d'Israël à l'histoire du monde et à l'histoire du salut. Salut pour les peuples du monde, richesse pour les nations, la résurrection pour l'ensemble de l'humanité et la vie d'entre les morts. Ceci répond dans une large mesure aux questions qui pouvaient subsister quant au sens du royaume de Dieu à venir. Pourquoi Dieu fit-il de telles promesses? Pourquoi un tel royaume ici-bas? Quelle signification revêt-il dans le plan de rédemption et de salut? Et quatrièmement, le royaume, c'est l'ultime démonstration de la condition désespérée de l'homme et de la justice de Dieu. Tout d'abord, par rapport à Christ, le Très-Haut n'est-il pas tenu de donner à son oint l'occasion de prouver qu'il est le meilleur législateur, juge, régent et gouverneur mondial? Ne faut-il pas que ce soit fait dans le cadre même de l'ancienne création? Ne vaut-il pas, en effet, que ce soit fait dans le cadre de l'ancienne création, et cela pendant une longue période? Donc la preuve que le Christ rejeté était bien le seul homme capable de comprendre et de conduire les affaires du monde. Pendant des millénaires, Satan a montré au monde son habileté au mensonge, à la tromperie et à la corruption. N'est-il pas juste que Dieu démontre en Christ son pouvoir de bénir, son pouvoir de sauver et répandre la paix? Et c'est cette même terre qui a vu la honte et l'apparente défaite du Fils de Dieu qui doit voir un jour sa gloire et son plein triomphe. La justice de Dieu le demande là même où Satan triomphait. Jésus-Christ doit donc être couronné. Par rapport à l'humanité, si l'on considère le millénium libre de tout préjugé, on doit admettre que c'est là une grande et délicate pensée de la part de Dieu que d'octroyer à cette pauvre terre et à ses hôtes fatigués après de si dures journées de fardeau et de labeur, un grand sabbat pendant lequel Christ prendra des mains de l'homme de péché les rênes du monde entier pour le gouverner personnellement pendant un temps dans la justice et la droiture selon la loi de Dieu. Jamais jusque-là, la preuve n'aura été faite que l'homme peut vivre dans le bonheur et la gloire, même sur cette terre, s'il possède le Seigneur pour roi. Le bonheur est possible, même sur cette vieille terre. C'est là la grande idée du royaume. Dieu, par là, démontre que si les peuples ne peuvent vivre dans la paix mutuelle, la faute n'en est pas aux circonstances, mais au péché de l'homme et à l'action corruptrice du diable. Mais la démonstration de Dieu va beaucoup plus loin. Que fera l'homme après 1000 ans de parfait gouvernement? Hélas! Hélas, il se révolte contre le Très-Haut, Gog et Magog, dit Offenbarung, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Ainsi, la démonstration de la justice de Dieu durant le millénium est en même temps la manifestation de l'incurable méchanceté de l'homme. Les nations auront appris si peu des conditions économiques et politiques les plus idéales, des preuves les plus évidentes de la grâce divine, en un mot, de tout le gouvernement direct du Seigneur lui-même, qu'il a, à la fin, séduite par le diable. Elles se rassembleront pour la plus virulente des révoltes, selon Apocalypse chapitre 20, verset 8. Donc la cause est maintenant entendue. L'homme est non seulement incapable de créer des conditions idéales, mais encore de les préserver lorsqu'elles existent. La plus brillante période de l'histoire humaine manifeste la condition désespérée du pécheur éprouve irréfutablement que Dieu est juste lorsque, pour la rédemption, il exclut d'une manière absolue toute force propre de l'homme. Le royaume devient ainsi la démonstration publique devant le monde entier du seul chemin qui jamais puisse conduire l'humanité à la paix, à savoir la seule grâce de Dieu à la croix de Golgotha. Chers amis, sachez que la gloire du royaume est une réalité. Alléluia. Irénée, en 190, en 190 après Jésus-Christ, élève de Polycarpe, lui-même élève de l'apôtre Jean, a très justement remarqué trois étapes principales dans le développement du salut dans le Nouveau Testament, étapes qui correspondent aux trois personnes de la Trinité. Le présent âge est celui du Saint-Esprit qui, en l'absence du Rédempteur, le glorifie ici-bas sur la terre, appelant et édifiant l'Église, Saint Jean chapitre 16, versets 7 à 15, et 1 Corinthiens chapitre 12, versets 3 à 13. Le retour du Christ introduit alors le royaume du Fils, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. par l'établissement pour 1000 années du royaume visible de Dieu. C'est le temps de la régénération. Saint Matthieu 19, verset 28, est le temps de l'universel. Enfin, le Fils remet donc, on l'a compris, le royaume au Père, se soumettant lui-même à lui, que c'est merveilleux. Le royaume du Père est alors manifesté, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. La gloire du Seigneur avait quitté le temple à regret, Ézéchiel 10, verset 18 et 19, et le chapitre 11, versets 22 et 23. Et maintenant, le Seigneur réapparaît, revenant vers son temple. Malachie, chapitre 3, verset 1, et Ézéchiel, chapitre 43, verset 1 à 5. Ces deux événements marquent d'une part le commencement et d'autre part la fin du temps des nations. Saint Luc 21, verset 24. Et désormais, le but est atteint. Le Seigneur est là. Ézéchiel 48, verset 35. Et le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Christ est maintenant le roi. Premièrement, nous avons sa gloire personnelle. Oui, en effet, Christ est celui qui règne parmi les hommes avec justice. Il est celui qui règne dans la crainte de Dieu. Il est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ainsi le dépeint le roi David, 2 Samuel, chapitre 23, versets 2 à 4. Celui dont il est à la fois le Fils et le Seigneur. En Christ le Rédempteur se réalisent tous les idéaux royaux. Il est Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14, et Saint Matthieu, chapitre 1, verset 23. Il est le grand triomphateur. Philippiens, chapitre 2, verset 11. Il est le héros victorieux. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il est le grand David et le chef suprême. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Osée, chapitre 2, verset 2. Ézéchiel, chapitre 37, verset 24. Et Zacharie, chapitre 14, verset 9. Par son action externe, il est le réunificateur de son peuple comme vrai David. Ézéchiel 37, verset 22 jusqu'au verset 24 et le chapitre 34, toujours d'Ézéchiel, verset 23 et 24 et ajouté Osée, chapitre 3, verset 5. Il est, en plus, le prince de paix sur son trône comme seigneur de son ancêtre. Saint Luc 1, verset 32, Saint Matthieu, chapitre 22, verset 45, et Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Il est la bannière des nations comme racine d'Isaïe. Ésaïe, chapitre 11, verset 10. Il est le cèdre des peuples comme cime du cèdre de Dieu. Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 et 24. Par son action interne, il est loin, pénétré d'un septuple esprit. Ésaïe 11, versets 1 et 2, et Apocalypse, chapitre 5, verset 6, et ajouté, chapitre 4, verset 5. comme rejetant du trône d'Isaïe, Ésaïe 11, verset 1. Il est donc le roi prêtre, couronné d'or et d'argent, comme germe du Seigneur. Zacharie, chapitre 6, verset 11 à 13. Il est Yahvé, notre justice, comme divin roi et rédempteur. Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6, et chapitre 33, chapitre 15 et 16. Ainsi est-il le glorieux Nazaréen, Ésaïe 11, verset 1, le germe de la souche, Matthieu 2, verset 23. Car il germera de son propre lieu, Zacharie chapitre 6 verset 12 et Ésaïe chapitre 27 verset 6, chapitre 35 verset 1 et 2 et ajouté Osée chapitre 14 verset 6 à 8. Et il bâtira le temple de l'Éternel et le tabernacle de David qui est tombé. Amos chapitre 9, verset 11. Tout cela sera de Dieu. Osée 14, verset 8. Car le fait essentiel concernant le Messie, c'est son éternelle déité. C'est pour cela qu'il peut être à la fois tronc et germe, origine et couronne, commencement et fin de la race royal de David. Apocalypse chapitre 5 verset 5, pour cela qu'il est à la fois une promesse, la promesse et l'accomplissement. Il est l'étoile dans la nuit et l'aube du jour, c'est-à-dire l'étoile brillante du matin. Apocalypse chapitre 22 verset 16. Le messager est le porteur d'une éternelle aurore. Et deuxièmement, nous avons, avant de terminer notre étude ce matin, nous avons l'adoration dont il est l'objet. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 1, verset 11. Un temple sera à nouveau érigé à Jérusalem. Ézéchiel chapitre 37, verset 26 et le verset 28, ainsi que chapitre 43, verset 7. On y présentera holocauste, sacrifice, offrande et sacrifice pour le péché. Ézéchiel 43, verset 18 à 27, chapitre 44, verset 11, 15, 27 et 29, ainsi que chapitre 45, verset 17, et ajouté Zacharie, chapitre 14, verset 20 à 21. Certaines fêtes seront célébrées avec cérémonie, comme la Pâque, Ézéchiel 45, verset 21, et la fête des tabernacles, Zacharie, chapitre 14, verset 16. Les sabbats devront être gardés, Ézéchiel, chapitre 44, verset 24, chapitre 45, verset 17, chapitre 46, verset 3, et la sacrificature sera entre les mains des fils de Tsadok, le juste, Ézéchiel 40, verset 46, chapitre 43, verset 19, et chapitre 44, verset 15. Le prophète Ézéchiel prophétisant le salut messianique, il dépeint un service d'offrande et le temple futur. Par exemple, notez, je crois que c'est Ézéchiel, chapitre 45, versets 23 et 24, chapitre 46, versets 4 à 15, et cela avec tant de détails, selon le chapitre 40, versets 6 à 15, et le chapitre 41, versets 1 à 4, et le chapitre 43, versets 13 à 17, qu'il semble à peu près impossible d'envisager son interprétation de la seule manière figurative et spirituelle. Ézéchiel 40 à 44. C'est donc les chapitres 40 jusqu'au chapitre 44. Il n'y a pas de difficulté à accepter l'existence d'offrandes en dépit de l'œuvre complète de Golgotha et de l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10, et chapitre 8, verset 13, et le chapitre 7, verset 18 du livre de Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Donc, si l'on regarde ces offrandes comme un mémorial, comme des symboles tournés vers le passé, vers l'œuvre achevée du Christ, la Sainte Cène n'est-elle pas accomplie exactement dans cet esprit-là? Quoi qu'il en soit, s'il y a un temple matériel, il sera différent de celui de Salomon. Il ne contiendra ni arche de l'Alliance, Jérémie chapitre 3, versets 16 et 17, ni chandelier, ni table de proposition, ni voile pour séparer le lieu saint du lieu très saint, Hébreux 9, verset 8, et Saint Matthieu chapitre 27, verset 51. Depuis la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Israël n'a plus jamais eu l'arche de l'Alliance. C'était une grande perte pour le temple de Zorobabel. Sans l'arche, le temple n'était qu'une huître sans perles, une maison sans habitants, l'arche étant le trône du Seigneur, étant le symbole de sa présence, l'objet le plus saint dans le lieu le plus saint. Exode, chapitre 25, verset 22. Mais dans le temple futur, cette absence serait précisément un gain considérable. Cela signifie en effet que le Seigneur est maintenant, lui, personnellement présent, que Jérusalem est son trône, Jérémie 3, verset 17, et que cette présence est la Shekinah, la nuée de gloire, Ésaïe, chapitre 4, verset 5, Exode, chapitre 40, verset 34 à 38. C'est le symbole ayant enfin fait place à la réalité. Alléluia. Cette absence de l'arche de l'Alliance exprime le caractère transitoire du millénium. Dans la Jérusalem céleste, toutes choses seront accomplies en Christ de telle sorte qu'il n'y aura plus de temple du tout. Apocalypse chapitre 21, verset 22. Ici, une partie seulement disparaît. Il est vrai que c'est la partie principale, laissant encore la coquille. Dans le royaume messianique se trouve le germe de la perfection se trouve la présence visible du Christ, mais la coquille, l'ancien monde, n'est pas encore ôtée. Et c'est pour cela qu'il est à la fois l'accomplissement de la prophétie et l'introduction à la consommation, à la fois la conclusion et l'étape vers l'éternité. Ne perdons pas de vue que l'essentiel n'est donc pas le royaume terrestre, âge de clôture de cette vieille terre, mais au-delà, le royaume céleste dans la perfection. Bien qu'en relation étroite l'un avec l'autre, comme peut l'être l'introduction et le corps d'un ouvrage, ils sont cependant séparés par la nouvelle création, la destruction, le jugement et la transfiguration du monde. Apocalypse chapitre 20, verset 7 et chapitre 21, verset 1. Les prophètes de l'Ancien Testament voyaient comme en une seule vaste image le millénium et la nouvelle création, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Ils le voyaient comme aussi la première et la seconde venue du Christ. Ésaïe 61, versets 1 à 3, Saint Luc chapitre 4, versets 18 et 19, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. La première et la seconde résurrection, Daniel chapitre 12, verset 2, et Apocalypse chapitre 20, verset 5. Ainsi, Ésaïe parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et là, on peut ajouter Apocalypse 65. Non, excusez-moi. Ésaïe, chapitre 65, verset 17, et 66, verset 22. Ésaïe. Sur laquelle, cependant, se trouve encore, et oui, malheureusement, se trouve encore le péché et la mort, bien que, il faut le dire, d'une manière exceptionnelle. Toujours Ésaïe, chapitre 65, verset 20. Donc, cela ne peut se référer que au royaume terrestre, bien entendu. Apocalypse 21, verset 4. Et d'un autre côté, il dépeint la Jérusalem du temps de la fin comme n'ayant besoin ni du soleil, c'est terminé, ni de la lune, car le Seigneur Jésus-Christ étant sa lumière. Chapitre 60, verset 19. Ce qui, sans aucun doute, se rattache à la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, verset 23. La raison qui justifie cette vue prophétique unilinéaire, je répète, la raison qui justifie cette vue prophétique unilinéaire, elle réside en ce que dans l'Ancien Testament, le ciel n'était pas encore ouvert à l'homme. Ce n'est que avec l'ascension du Christ, comme étant le chef de la nouvelle humanité, que enfin l'accès en est offert. Saint Jean chapitre 14, versets 2 et 3, et chapitre 17, verset 24. Depuis lors, la Jérusalem céleste a été ouverte à tous. Galates chapitre 4 verset 26 et Apocalypse chapitre 21. Il a donc fallu le Nouveau Testament pour amener une claire ligne diagonale capable de séparer ce qui est de cette création de ce qui appartient à la nouvelle création. Apocalypse chapitre 20, verset 7 et chapitre 21, verset 1. Chers amis, malheureusement, je suis obligé de faire pendant un certain temps ces études à partir de 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que, en dehors, droit sous les fenêtres, il y a des travaux qui vont durer, paraît-il, environ 6 mois. C'est des travaux où ils ouvrent les routes pour faire de nouvelles canalisations, des systèmes de câbles pour tous les bureaux d'avocats, de banques, de notaires, etc., qui ont besoin d'Internet et tout ce qui va avec. Donc, il y a des grands travaux. Et, chers amis, une autre chose. Pour ceux qui ont Internet, moi je ne le possède pas, c'est la pasteur Sabina Reichenbach qui a le devoir de mettre ce que je fais sur Internet. Donc pour ceux qui ont Internet, vous pouvez trouver, je crois, www.bibleexplique ou la Bible expliquée, absolument tout. Deux séries énormes, je crois une centaine de CD, tout ce qui concerne le 666, et cela beaucoup plus détaillé et beaucoup plus élaboré. Donc, pour ceux qui ont Internet, vous n'avez pas de problème, c'est gratuit, vous pouvez donc obtenir tout cela. Chers amis, je vous quitte pour ce matin, et Dieu voulant, à demain matin pour la suite de cette série. Nous aurons comme titre « Le peuple d'Israël et les nations ». À demain matin, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Et nous pouvons tout de même, je crois qu'on a encore un peu de temps, de terminer par la prière. Prions donc ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce de la protection que tu as accordée à nos familles, du privilège dont elles jouissent de t'en bénir, de la lumière et des secours que nous pouvons puiser dans ta sainte parole. Rends-la vivante, rends-la efficace pour chacun de nous, afin que nous ne nous bornions pas simplement à l'écouter, mais que créée par ta puissance en nouveauté de vie, nous pratiquions tout ce qu'elle nous commande. Que le nombre des bienfaits que tu répands sur nous, nous inspire une plus profonde sympathie pour les êtres qui en sont privés et qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, car l'imitation de Jésus-Christ, toujours si plein d'amour et de compassion, nous ne nous détournions jamais de l'affligé ou du pauvre qui réclame notre assistance. Ne nous prescrivant après nos devoirs positifs et immédiats, que de nous tenir prêts à faire l'œuvre que le Seigneur nous présentera. Répétons avec un vrai chrétien, l'homme qui a besoin de moi, c'est celui dont j'ai besoin, et nous échapperons aux agitations inséparable de la résistance que nous opposons souvent à ce qui contrarie nos plans et notre volonté. Soyons souples entre les mains de Dieu, ouvriers avec lui, et rien ne saura plus troubler notre paix. Seigneur, toi tu sais Quels sont les mécomptes, les humiliations intérieures et salutaires qui peuvent nous avoir appris dans cette journée à ne chercher qu'en toi tout ce qui nous élève au-dessus des misères de la vie humaine. Tu connais, ô Dieu, l'expérience que tu as dispensée à chacun de nous, toujours dans un but de miséricorde. Fais-la fructifier dans nos âmes par ton esprit, afin que nous devenions de plus en plus attentifs à écouter et à suivre tes directions. Bénis-nous, prends pitié de ceux qui souffrent, et revêt-nous de la charité, afin que nous soyons véritablement tes enfants. Amen. Amen. Chers amis, donc, Dieu voulant, à demain matin. Au revoir.